Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et bonjour, et Lecture par tous aujourd'hui sera helvétique. Oui, helvétique. On va aller du côté de la Suisse, mais alors de la Suisse allemande, bien sûr. Pourquoi ? Préparation, on va dire, pour nos auditeurs, de la prochaine comédie du livre qui sera consacrée, entre autres, aux littératures de Suisse. Alors, aux littératures plurielles, hein, puisqu'il y a la littérature romande, mais il y aura aussi la littérature alémanique, suisse-italienne, et même la littérature romanche. Alors, pour en parler avec moi aujourd'hui, à ce micro, François Chabot. Bonjour François.
Bonjour Marc.
François Chabot, qui est poète, par ailleurs. Voilà. Alors, nous allons commencer avec un auteur suisse-allemand, Matthias Schocke. C'est comme ça qu'on prononce. Alors, c'est une orthographe un petit peu bizarre. Z-S-C-H-O-2-K-E. Voilà. Si jamais vous le cherchez en librairie, cherchez pas à... avec un C ou S, non, il faut le chercher au Z. Et oui, c'est étonnant. Alors, Matthias Schocke, il a beaucoup publié en France, beaucoup publié d'abord en Suisse, bien sûr, mais il est pas mal traduit en français. C'est un éditeur suisse, c'est Zoé qui le traduit. Et il a écrit du théâtre, des romans, beaucoup de choses. Il est né en 1954, c'est un Bernois, qui était d'abord comédien, ce qui explique qu'il ait écrit du théâtre. Il a été comédien. Et puis, il est allé aussi à Berlin. Il a vécu à Berlin, donc entre Suisse-Allemande et Allemagne. Dramaturge, cinéaste aussi. Il a même fait des films qui ont eu des récompenses. Beaucoup d'activités, sont plusieurs romans. Alors, ça commence en 82, je crois. Non, 88, pardon. 88 avec Max. Et puis, en France, il y a eu le prix Femina, si j'ai bonne mémoire, avec Maurice à la poule. Un titre plein d'humour pour un auteur qui est aussi plein d'humour. Alors, François Chabot, qu'est-ce que vous l'avez lu ? Là, je vois, vous avez ces courriers de Berlin, qui est un gros volume qui est construit sur des mails, je crois, c'est ça ?
Alors, exactement, le courrier de Berlin est à la fois une curiosité et une première. Car il est fait de 1500 mails envoyés par l'auteur à son meilleur ami d'octobre 2002 à juillet 2009 même. Et c'est très intéressant parce qu'on voit le quotidien d'un auteur qui est dans son univers et qui avec amitié, transmet des messages importants dans la vie littéraire. C'est complémentaire à son autre œuvre. C'est un tour de force quand même d'envoyer, publier les correspondances dans un sens uniquement, de l'auteur à un ami,
ouais.
Par mail. Et ça se lit très intéressant. On peut penser au journal de Bergugno, mais c'est pas... Ce n'est pas le cas, c'est vraiment une œuvre nouvelle.
D'accord. Alors, moi, ce qui me frappe toujours, vous allez me confirmer par rapport à ces courriers de Berlin, ce que j'ai lu de Schocke, c'est qu'il y a ce côté très, d'une observation très fine du quotidien, c'est-à-dire qu'il voit plein de choses, et puis une espèce de position de retrait, comme ça, et comme s'il se retirait, ou en tout cas, les personnages, moi, dans ce que j'ai lu, sont en retrait du monde, comme ça, se sont mis à côté, et puis regardent le monde avec un regard désabusé.
De dérision.
De dérision, presque désespéré, mais toujours avec une ironie et un humour assez réjouissant. Est-ce qu'on retrouve ce côté-là dans ce regard sur Berlin, du coup ?
Alors, le regard sur Berlin, il en a fait même un livre, un petit livre, un petit écrit, Berlin, l'éternel faubourg, parce qu'il s'est installé en 1980 à Berlin.
Mm-hmm.
Il était encore comédien en théâtre dans la langue allemande.
Ouais.
Et il est passé donc à l'écriture, après, l'écriture donc, de pièces de théâtre et de romans. également metteur en scène et cinéaste aussi. Donc il a plusieurs cordes à son arc. Et le métier de comédien lui a permis de connaître une partie de ce qui l'intéressait aussi. Mais il a vu qu'il n'était pas fait pour ça, donc il préfère être auteur que comédien. Il s'est installé définitivement à Berlin depuis 1980 déjà.
Alors, et donc Maurice à la poule, qui est le titre le plus connu, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce Maurice à la poule ? Un titre, j'ai envie de dire, un titre plein du... Déjà, on suppose que c'est... Oui, il y a un humour. Déjà, dans le titre, c'est manifeste, quoi.
Oui, et puis, il a reçu le prix Femina étranger. C'est un très bon prix, toujours de qualité. Et ce qu'il y a, c'est que c'est comme une enquête, un peu... son quotidien est... Il y a toujours une énigme dans ce qu'il écrit. Et une obsession, c'est un violoncelle qu'il entend à côté de son appartement, son bureau, là où il travaille. Il n'hésite pas à prendre le terreau de sa vie quotidienne, créatrice et de ses amis comédiens, pour en faire part au lecteur. Mmh. On voit que derrière la fiction, en fait, il y a beaucoup de choses réelles qui sont réellement passées. Comme là, un ami qui fait des rôles pour le cinéma et que plusieurs réalisateurs utilisent sans s'apercevoir que c'est le même qu'ils utilisent parce qu'ils n'ont pas des comédiens pour des passages ponctuels. Et au Festival de Cannes, le public s'est aperçu que c'était toujours le même...
Même comédien, acteur, même acteur
dans trois films différents, qui étaient filmés de la même façon quasiment, avec un tic à l'œil, à la paupière. Et comme si ils ne se rendaient même pas compte de quel comédien ils utilisaient. Et en fait, lui, il a préféré arrêter d'être comédien, mais c'est sûr que... pour pouvoir s'exprimer vraiment dans Max, qui est un peu son portrait, en fait. Et puis Maurice à la poule, qui est toujours dans l'énigme. L'énigme et l'autodérision, et un peu du fantastique aussi, mais fantastique qui est toujours ancré dans l'incertitude de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ne vis pas, quelles sont mes envies.
Oui, il y a ce côté, hein, c'est très dans le quotidien, avec... des personnages, je disais, un petit peu en retrait, comme ça. En même temps, on ne comprend pas. Il y a des choses d'énigmatiques, un petit peu. Et puis, quelque chose de très banal. Tout est banalisé. On a des personnages qui... Bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et puis, de temps en temps, qui réagissent. Vous ne nous la ferez pas. Mais vous ne nous la ferez pas quoi ? On ne sait pas exactement. Il y a ce côté-là. Alors, parmi les autres livres qu'il a écrits, on évoquait, il y a du théâtre. Donc, dans ces pièces de théâtre, il y a L'heure bleue ou La nuit des pirates. Il y a aussi un volume qui rassemble trois pièces, La commissaire chantante, L'invitation et L'ami riche. On évoquait Max. Et puis, Les courriers de Berlin. Il y a un volume qui s'appelle aussi Circulation. Maurice à la poule, et puis les plus récents, L'homme qui avait deux yeux, ça s'est été publié en 2015 chez Zoé, c'était en 2012 pour la version originale. Trois saisons à Venise, c'est quelqu'un qui voyage, hein. On disait Berlin, voilà, il est allé à Berlin, il a fait ce travail sur Berlin. Il a aussi fait des récits sur Venise, hein. Alors c'est assez amusant parce qu'il raconte comment il est installé là-bas depuis un moment, et puis il est spectateur des touristes à Venise, de cette foule de touristes. Lui, il n'est plus touriste puisqu'il est installé. Il est observateur. Hein. Et puis le dernier titre paru l'année dernière, « Quand les nuages poursuivent les corneilles hein. ». Un titre étrange aussi.
Il y a beaucoup de poésie
dans ça. Ce côté poésie, d'ironie. Alors, moi, je suis en train de lire, et c'est un vrai bonheur, je suis en train de lire L'homme qui avait deux yeux. Hein, voilà.
C'est effectivement quelque chose de très curieux
que d'avoir deux yeux, n'est-ce pas ?
L'interrogation dès le départ.
Voilà. Et il y a plein de petites réflexions. Alors, c'est quoi l'homme qui avait deux yeux? Ben, c'est un personnage qui a pris l'habitude de vivre avec une femme qui ne parle pas, ou très peu, et puis elle est morte, et puis il essaye d'aller à un endroit où il a dit que ce serait bien d'aller, il y va, et puis ça se passe, rien ne se passe comme il avait imaginé. Et on a plein d'annotations aussi, de réflexions, tout d'un coup, des petites phrases. Il aime bien les petites phrases, Matthias Schoke, où tout d'un coup, paf, on a une petite réflexion, aussi bien sur notre monde que sur la littérature. Je trouve qu'il a un côté un peu comme Diderot, alors, je sais pas si vous l'avez retrouvé dans ce que vous avez lu, où il s'adresse aussi au lecteur. Et on voit le livre en train de se construire. Tout d'un coup, il s'arrête. Oui, non, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait le raconter. Bon, je pourrais aller en dire plus, mais non, ça se fait pas dans un livre. Donc voilà. Et par exemple, bah là, voilà, j'ai une réflexion là sous les yeux. Il raconte cette histoire. Il raconte une histoire dans l'histoire. Cette histoire pourrait se poursuivre ainsi sur les deux pages suivantes au moins. Mais elle s'oppose à ce qu'on la raconte jusqu'au bout. Donc je vais m'arrêter. Voilà, il dit donc en gros... non, mais c'est bon, j'ai commencé, mais je vais m'arrêter là parce que c'est... ça se fait pas de raconter des choses comme ça dans un livre. Et puis des réflexions, une espèce de philosophie sur la vie... qui est intéressante, là, par exemple, un passage où il dit, il y a de quoi, dissertation, vous avez 4 heures, allez. L'idée est plus puissante que l'expérience. L'inimaginable est plus horrible que l'imaginable. Ah, hein, sur la question de la fiction, allez, vous avez 3 heures, je ramasse les copies à midi pétante, voilà. Donc, Matthias Schoke, hein, qui viendra à la Comédie du Livre. Si vous voulez trouver ses livres, ben c'est essentiellement aux éditions Zoé.
Très bonne maison d'édition. Hein.
Voilà, maison d'édition suisse qui publie beaucoup de livres de qualité. Et qui, je pense qu'il y aura, la maison d'édition sera représentée, en tout cas par les auteurs, parce qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui viendront en cette Comédie du Livre, qui sont publiés chez Zoé, hein, de langue allemande ou française, notamment Aude Seigne, auteur francophone, qui sera aussi là et qui est également publié chez Zoé. Voilà, alors, pour un premier auteur, on va mettre une petite virgule, et puis on va parler d'un autre auteur qui vient, lui aussi, à cette Comédie du Livre. Alors, l'autre auteur dont je vais vous parler, alors lui, il n'est pas édité chez Zoé, hélas, il n'est pas facile à trouver en français. Un auteur qui écrit en allemand, mais aussi en romanche. Hein, c'est le romanche, c'est la 4e langue de la Suisse. Hein. On connaît la Suisse romande, c'est le français, la Suisse alémanique, c'est l'allemand, la Suisse italienne, c'est italien. Et puis, il y a le romanche. Avec en plus un tas de dialectes et de variantes de dialectes. Donc c'est quoi? Bah c'est un mélange d'italien, d'allemand, de suisse-allemand, d'autrichien. Enfin, voilà, c'est une langue très particulière. Et cet auteur, c'est Arnaud Kamenisch. Alors Arnaud Kamenisch, jeune auteur qui a 41 ans et qui a publié plusieurs livres chez son éditeur allemand, Orson Geller. C'est le nom de l'éditeur, l'édition c'est Engeller Verlag. Et puis, il avait commencé à publier une trilogie sur les paysans, on pourrait dire, des Alpes, hein, qui comprenait 3 titres, Seisner, Derrière la gare et Ustrinkata. Hein, alors, dites Seisner, ben c'est le nom d'une montagne, ben, Derrière la gare ça se comprend, Ustrinkata, ah, c'est plus compliqué à traduire. De quoi il s'agit dans ces romans? On est dans du roman paysan en montagnard, on pourrait dire, mais ça a beaucoup à voir avec Samuel Beckett. Hein, puisqu'on a des personnages qui sont, pareil, de nouveau un petit peu en marge du monde, comme ça, et qui sont plongés dans le monde, qui font des choses quotidiennes qui deviennent un petit peu absurdes, qui se déglinguent de partout, Et on est dans le Beckett de En attendant Godot, de Au les beaux jours, de fin de partie, mais décliné dans les Alpes, dans les Grisons, puisque Arnaud Kameniche est originaire des Grisons. Et c'est amusant, comme peut l'être du Beckett. Oui, Beckett a un côté drôle, un côté désespéré et un côté drôle. On a la même chose chez Arnaud Kameniche. Alors, le problème, c'est que... ça doit être très compliqué à traduire. Il y a une traductrice qui avait fait un travail pour les deux volumes qui ont été publiés, Cesner et Derrière la gare, qui ont été publiés par un éditeur de Lausanne, les éditions d'en bas. Parce que la langue d'Arnaud Kameniche, c'est du suisse allemand, c'est du romanche, c'est de l'italien, tout ça mélangé. Et on est dans des milieux paysans, montagnards. Donc c'est bourré de déformations, de mots locaux. Et je me dis toujours, Camille Luchaire, la traductrice, elle a fait un sacré boulot. Hein. On pourrait prendre quelques lignes de Derrière la gare, par exemple. Hein. Et voilà, je vous lis ça. Le Gion Barretta attrape les deux lapis par les oreilles pour les sortir du carton. Il lâche les lapis dans le jardin. Eh bien, vu là, il dit. Les lapis sautent dans tous les coins du jardin, on leur saute après. Gion Barretta a dit à notre fâtre qu'il faut attendre quelques semaines, que c'est bon, vous pourrez les laisser courir. Voilà, on entend, alors j'essaye de le restituer un petit peu, mais c'est pas des lapins, c'est des lapis, et ainsi de suite. On a tout un tas de petites choses comme ça qui restituent une langue parlée très rustique, on va dire. Alors, d'autres livres d'Arnaud Kameniche ont été écrits. Alors, on est en attente de traduction. Voilà, on ne sait pas. Alors, on espère, j'espère, comme Arnaud Kameniche vient à la Comédie du Livre, que c'est un signe qu'un éditeur français va reprendre la traduction et qu'on va voir arriver le troisième volume de la trilogie, Ustrinkhata, et aussi les autres livres. Il y en a un qui s'appelle Fred und Franz, pas besoin de traduire. Il y en a un qui s'appelle Nächster Halt Verlangen, pardon. Traduction approximative, prochain arrêt désir. Dicourt, le remède. Die Launen des Tages, les caprices du jour. Et puis son dernier qui est sorti récemment, Der letzte Schnee, la dernière neige. Et j'allais chercher une critique allemande. Les traducteurs sur Internet, on peut lire toutes les langues hein, maintenant, c'est formidable. Hein. Et qui parle de ce Letzte Schnee et qui dit justement, on a deux personnages, qu'est-ce qui se passe dans la dernière neige? On a deux personnages qui sont dans une station de ski, ils s'occupent du remonte-pente. Alors, ce n'est pas un remonte-pente sophistiqué. Hein. La station de ski, ce n'est pas une grande station. Et puis la dernière neige, bah, c'est celle qu'on espère pour, avant de clore la saison. Et puis bah, la dernière neige, elle ne vient pas. Là, elle ne vient pas. Et nos deux personnages sont, le critique nous dit, bah, ils sont un peu comme, et d'ailleurs il y a une référence apparemment dans le livre, une citation directe, ils sont comme Vladimir et Estragon, les deux personnages de Beckett qui attendent Godot. Et Godot ne vient pas. Et là, bah, ils attendent le client, et le client ne vient pas. Et ils ont toutes des réflexions sur la vie, ainsi de suite. Donc c'est un Beckett montagnard, on va dire, un Beckett des Grisons, qui a été adapté au théâtre. Hein. D'ailleurs, certains de ses textes sont adaptés au théâtre. Hein. Je parlais de Derrière la gare, ça a été adapté au théâtre. On espère, on va croiser les doigts, on ira le rencontrer à la Comédie du Livre. Ça devrait être tout à fait intéressant. En plus, c'est un performeur, donc il lit lui-même ses textes. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose de ce côté-là. Et puis, voilà, on croise les doigts pour qu'un éditeur français re-embauche la traductrice qui avait fait un travail magistral sur les deux premiers volumes, Camille Luchaire, et qu'on voit arriver les livres d'Arnaud Kameniche en France. Ça vaut le détour. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler, non de...
Je n'ai pas lu Kameniche.
Voilà. Hein, donc, aujourd'hui, vous pouvez le trouver... normalement ça se trouve encore hein, les deux volumes Cesner Derrière la gare aux éditions d'en bas, un éditeur lausannois. Donc, nous avons présenté deux auteurs suisses qui vont venir à la prochaine Comédie du Livre, Mathias Schocke et Arnaud Kaminisch. Lisez-les et venez les rencontrer. C'est très plaisant. Et les deux ont un peu cet humour absurde, dérisoire, désespéré, mais très drôle. Recommandé très vivement, n'est-ce pas, François ?
Oui, bien, il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'amitié aussi dans l'œuvre de Schocke.
Et beaucoup d'amitié, c'est vrai aussi. Allez, on vous donne quelques dates pour votre agenda. Alors, nous allons commencer avec les Inuits. Oui, oui, oui. Vous savez, les Inuits, c'est les Esquimaux qui vivent au nord du Groenland. Alors, pourquoi ? Bah parce que la librairie, la Géosphère, vous propose une rencontre, deux rencontres même. Hein. Une va avoir lieu le 5 avril à la Géosphère, donc c'est... La Géosphère, c'est derrière le musée Fabre, hein, rue Jacques-Cœur. 5 avril, les Inuits seront une première fois à l'honneur avec Dans la gueule du ciel et Sandrine Knudek, donc, qui a écrit ce livre, qui a séjourné parmi les Inuits et qui parlera de ça. Et puis, deuxième volet, ce sera le 12 avril, à la même librairie, à la même heure, une rencontre avec Gilles Stassard, qui a écrit... Grise Fjord, paru début mars aux éditions du Rouergue. Pareil sur les Inuits. Ensuite, ça passera le 10 avril. Le 10 avril à La Cavale. Une rencontre avec Ingrid Astier pour son roman La Vague. Mais c'est surtout une rencontre avec un éditeur qui lance une nouvelle collection de romans noirs. L'éditeur, c'est l'édition des Arènes. La collection s'appelle Equinox, alors avec un X majuscule et sans E à la fin. Et le directeur de collection, qui a aussi travaillé chez Gallimard dans la collection du noir, s'appelle Aurélien Masson. Donc vous pourrez les rencontrer le 10 avril à La Cavale à partir de 19h. La Géosphère aime bien voyager. Allez, on va continuer nos voyages. Ça se passe le 11 avril. Alors là, vous pourrez découvrir la Tunisie, et plus précisément Tunis, avec un romancier qui vient de là-bas, hein, Ayman Garbi, auteur de Magma Tunis, un roman qui est paru cet été aux éditions Asphalt. Asphalt, vous savez, c'est cet éditeur qui fait du polar et du noir urbain, essentiellement urbain. Beaucoup de bons titres et une grande attention lorsque c'est des romans traduits accordés à la traduction. Encore quelques dates. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner encore comme date ? Le 14 avril, excusez-moi, le 14 avril, c'est la librairie Fière de l'être qui vous proposera une animation un peu surprenante de lecture gourmande. Ouais, lecture gourmande, ouais, il faut une gourmandise pour lire ça, on est bien d'accord. C'est pas un scoop. Lecture gourmande autour d'un roman qui s'appelle Le bon gros géant. Hein, c'est littérature pour enfants, c'est Roald Dahl. Hein, et il y aura pas simplement... La lecture, il y aura la lecture, mais il y aura aussi présent une créatrice culinaire, Bénédicte, qui va donner vie avec de la nourriture à ce bon gros géant. Dernière date, nous retournons à La Cavale. Alors, avec une rencontre avec un éditeur de Marseille. L'éditeur s'appelle Philippe Oliveira et sa maison d'édition, on ne connaît pas trop son nom, mais sa maison d'édition, souvent on connaît le nom, c'est les éditions Agone. Agone, c'est aussi une revue, hein, c'est une édition qui s'est, une maison d'édition, une revue qui s'est notamment illustrée dans toute la littérature, les écrits, les essais libertaires, pour ne pas dire anarchistes, hein, c'est la, une sensibilité affirmée de ce côté-là, et qui publie beaucoup de littérature, pas seulement, mais qui publie de la littérature aussi. Ce n'est pas leur vocation principale, mais ils en publient quand même pas mal, et des auteurs tout à fait importants. Une revue qui a 30 ans déjà, quand même, hein, et les livres, l'édition, elle a 20 ans. Voilà, avec un mode d'organisation très utopique, à l'image de la Cavale, hein, qui est sur une logique collective et participative. Hein, avec, on publie, on est sensible aux logiques libertaires et autogestionnaires, donc la maison d'édition et la revue ne peuvent fonctionner que sur ce mode-là. Hein. C'est du collectif, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de capital qui joue un rôle moteur. Très critique vis-à-vis des médias, hein, qui a publié des auteurs comme Pierre Bourdieu, Jacques Bouvresse, Noam Chomsky, pour les philosophes, mais aussi du côté de la littérature, Alfred Döblin, Victor Serge, Howard Zinn, vous savez, qui a fait cette histoire populaire des États-Unis, qui a assez bien marché, et puis des auteurs comme Harry Martinson, par exemple, qui est un auteur suédois du début du siècle, qui est vraiment à redécouvrir.
Aniara.
Voilà, notamment.
Le livret de l'opéra Aniara.
Voilà, qui est une espèce de science-fiction poétique, on va dire, oui. Comme ça. Et puis qui a aussi publié sur les vagabonds et sur les...
Prix Nobel.
Et qui a été un des prix Nobel, je crois, en 1937, si j'ai bonne mémoire, un prix Nobel partagé avec un autre auteur suédois qui était ce qu'on appelait le réalisme, de ce réalisme social de cette époque-là. Voilà, ça c'est à la Cavale, et vous pourrez découvrir le fond des éditions Agon. Je vous redis la date, le 26 avril, et c'est de 19 à 20 heures. Et puis juste un petit dernier, allez. Pour nos amis de Sommières, la petite librairie vous propose un atelier découverte du livre jeunesse. Il s'agit de sensibiliser des tout jeunes enfants au livre papier. Et oui, même d'en fabriquer un. Ça se passera le samedi 13 avril. Et comme c'est pour les petits, ça se passe de 10h à midi. La petite librairie qui est rue du Général Bruyère à Sommières. Voilà. Pour les dates, j'espère que vous avez tout noté. Si vous n'avez pas tout noté, eh ben, il vous reste à réécouter l'émission et puis à préparer votre stylo à temps. Merci François Chabot de votre participation.
Merci Marc.
Autour de Mathias Schocke. Et puis de bonnes lectures et à la semaine prochaine. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.